Bonjour Camille Froide-Vaumétrie.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour nous parler de Pleine et douce, qui est sorti aux éditions Sabine Vespizère, et c'est une première puisque on ne vous connaissait pas encore sous cette forme de romancière. Et c'est un livre duquel vous dites que c'est un roman choral, puisqu'effectivement chaque chapitre correspond à une voix de femme. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que il me semble qu'il y a un personnage en plus de ces personnages-là, et c'est le silence. Est-ce que c'est un personnage qui a été écrit de cette façon-là ?
Alors, il y a en effet 12 filles et femmes, que des filles et que des femmes, pas d'hommes, et ça, c'était un choix pour le coup. Quant au silence, écoutez. Ce que vous me dites me fait réfléchir. Si ça produit quelque chose de cet ordre-là à la lecture, ça me fait plaisir, ça me va bien, parce que j'avais envie que ces voix résonnent. Et par définition, ce qui résonne, ce qui fait écho, peut se déployer dans le silence. Donc il y a peut-être du silence quelque part qui vient se loger. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout quelque chose de réfléchi.
Pourquoi des femmes ? Pourquoi est-ce qu'un homme ne pouvait pas aussi prendre la parole sur les femmes ?
Alors c'était un choix, ça m'a effleuré l'esprit puisqu'il y a des hommes malgré tout dans le livre, et notamment un qui est un homme important, qui est Greg, qui est le futur père intime du bébé-fille qui est au centre du livre. Et voilà, j'ai pensé quelques secondes, mais vraiment pas très très longtemps, lui donner la parole. C'était important pour moi de rester dans cette polyphonie féminine. C'était important pour moi aussi de le faire, j'allais dire, aussi, même si je considère pas que ce soit un roman féministe, mais c'est néanmoins une sorte de démarche assumée que de faire entendre la voix des femmes, celle qu'on n'a pas entendue pendant si longtemps. Et j'ai eu envie de le faire aussi. Je le fais dans mes essais déjà beaucoup, mais j'ai eu envie de le faire aussi dans mon roman.
Vous faites parler Greg d'une certaine façon, puisque ce personnage, la fois où on l'entend le mieux dans votre livre, c'est la fois où il masse le bébé. On a l'impression de l'entendre avec des gestes et non pas avec des mots. Et on a l'impression que vous avez choisi de le faire parler d'une façon douce et pleine, comme votre titre, qui est vraiment en écho tout le long du livre. Et ça pose question aussi sur l'image qu'on renvoie des hommes aujourd'hui, qui est une image plutôt de violence. Et donc, voilà, comment vous avez articulé cette prise de parole qui n'en est pas tout à fait une ?
Alors, la violence des hommes, elle est présente aussi, je le dis, parce que, voilà, il n'y a pas d'angélisme de ma part. Il y a dans le livre un moment où une jeune femme subit une agression sexuelle, il y a une autre femme qui a été quittée de façon un peu brutale par son mari, etc. Donc, on a, comme dans la vie, comme dans notre société, toutes ces indicateurs, ces signaux de ce que nous continuons de vivre dans un monde où la violence masculine s'exerce. Mais Greg, effectivement, il est à part. Alors j'ai choisi de le faire masseur ostéopathe, et il a effectivement ce lien très 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 proche avec sa fille de 6 mois, Eve, qu'il va masser. Et je crois que j'ai voulu dire quelque chose en rapport avec la question de l'intimité. Je disais que j'avais fait de lui le père intime de cette petite fille, parce que ce n'est pas son géniteur, ce n'est pas non plus un père social, il ne va pas l'adopter, il ne vit pas avec Stéphanie, la maman de Eve, il est juste son meilleur ami, il vit par ailleurs en couple d'hommes, il est gay. Mais c'est néanmoins un père intime aussi parce qu'il est en capacité de nouer ce lien d'intimité entre lui et sa fille. Et c'est bien quelque chose qui n'existait pas, qui n'a pas existé durant des décennies, voire des siècles. Ce sont des relations d'intimité, d'amour intime, mais sans évidemment aucun implicite, aucune comment dire, arrière-pensée. C'est vraiment la possibilité pour les pères d'aujourd'hui de nouer des liens et des relations avec leurs filles qui soient dans cette proximité-là, dans cette intimité-là. Ça fait partie des choses qui sont en train de changer, cette réinvention de la famille, cette réinvention aussi de la paternité. Et j'ai eu envie de l'incarner, tout simplement, dans ce personnage, Greg.
Est-ce que, d'une façon générale, votre livre parle aussi, de toute façon, d'une forme de naissance ou de recommencement ? D'abord parce que ce bébé, vous avez décidé de l'appeler Eve, et puis parce qu'on le voit bien, il y a, par exemple, un élément qui est assez important dans votre livre, c'est le principe du rituel. Alors, il y a une fête de la paternité, il y a ce rituel du massage, il y a quelque chose de l'ordre, comme ça, du sacré. Et je trouve que ce n'est pas sans faire écho au principe du recommencement et de la naissance. Et donc, Est-ce que vous vouliez symboliser aussi, peut-être, je ne sais pas, une étape, un passage, une autre forme de féminisme ou une réflexion intellectuelle? En tout cas, un passage?
Oui, alors je vais tout de suite écarter le mot de sacré qui ne me va pas du tout, je suis désolée, parce que voilà, ça renvoie à quelque chose que dans le champ féministe, on appelle le féminin sacré, et c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé, même si par certains aspects, il y a quelque chose autour de la corporité féminine qui peut faire écho. Mais en revanche, alors j'endosse complètement, et c'est très juste, cette question de la naissance, du renouvellement. C'est pas tout à fait un hasard, évidemment, si Ève s'appelle Ève, c'est une nouvelle première femme. C'est peut-être la première fille d'une nouvelle ère qui serait celle d'une société féministe enfin advenue. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le fil rouge, me semble-t-il, du roman, c'est celui de l'émancipation des femmes. Toutes ces femmes et ces filles qui prennent la parole, chacune dans un chapitre dédié, chacune à la première personne, donc chaque voix est très très singulière, mais toutes ensemble, elles forment comme un chant, et le refrain de ce chant, c'est le refrain de l'émancipation. Et Ève, c'est la petite fille qui naît et pour laquelle on a décidé qu'elle grandirait en étant la plus libre et la plus épanouie possible, notamment vis-à-vis de son propre corps. Et sa mère, notamment, Stéphanie, a décidé de la protéger, de la tenir à distance d'une certaine forme de malédiction féminine qui est incarnée par sa grand-mère, Nicole, qui est une forme de matriarche un peu aigrie et qui est une femme qui, elle, n'a pas su transmettre à ses filles un féminin joyeux et serein. Et donc, il s'agit de faire en sorte que ce bébé inaugure en quelque sorte une nouvelle condition féminine qui serait, je parle au conditionnel hein, parce qu'elle est encore un horizon, qui serait celle d'un rapport à son propre corps, mais aussi d'un rapport au corps des autres et au monde en général, qui soit placé sous le signe de la liberté et de l'égalité. Alors je reviens à des thématiques très féministes, mais je précise parce que une fois encore, c'est quelque chose qui est comme une sorte de d'arrière-fond. J'ai vraiment fait en sorte, et j'espère y être arrivée, que le roman soit pas un livre militant ni démonstratif. Il est simplement comme une sorte de photographie panoramique de la condition des femmes d'aujourd'hui, mais que l'on comprend et que l'on entend par leur propre voix.
On pourrait dire, au fond, vous avez raison, c'est pas du tout un livre qui est un manifeste. C'est vraiment un roman, on rentre dans l'histoire de ces personnages. On pourrait dire au fond que vous avez écrit un livre sur les femmes dans tous leurs états, avec toutes les définitions possibles du mot état.
Alors, j'ai essayé de déployer toute une série de thématiques et de problématiques, toutes plus ou moins incarnées, d'ailleurs plutôt plus que moi, mais sans volonté d'exhaustivité. C'est-à-dire que si dans un premier moment de l'écriture, j'étais dans cette volonté peut-être d'illustrer de façon fictionnelle ce que je peux développer par ailleurs dans mes essais, il y a eu un moment de rupture lors duquel j'ai ressenti quelque chose d'assez libératoire, qui est qu'il y a un moment où j'ai ressenti et j'ai accepté que mes personnages m'entraînent. Et c'est-à-dire que plutôt que d'être derrière eux, comme je l'étais pendant un long moment, à essayer de déployer une écriture qui peut-être était dans cette volonté voilà, d'ouvrir une sorte de grand éventail de tous les états de la condition féminine. Quand je me suis laissée porter en fait par mes personnages, j'ai lâché ça. J'ai abandonné en fait peut-être cette visée un petit peu didactique je me suis laissée porter et j'ai pu éprouver alors d'abord un plaisir d'écriture que je n'avais pas éprouvé jusque-là, vraiment une jubilation hein, de me sentir libérée dans l'écriture. Et ça, je crois, ça a produit quelque chose qui m'a entraînée d'ailleurs à des endroits auxquels je ne m'attendais pas et qui a permis, j'espère, de créer une forme de fluidité qui fait que oui, en effet, on traverse beaucoup d'états de la vie des femmes, la puberté, la grossesse, la sexualité, la ménopause, etc. Oui, on croise des situations de vie que nous vivons toutes à peu près, c'est-à-dire voilà, tomber amoureuse, subir une agression, avoir un projet d'émancipation, etc. Mais dans un registre qui est celui vraiment d'une forme de libre farandole ou quelque chose comme ça, où j'espère, on a la sensation, quand on lit le livre, d'être à son tour prise par la main et puis entraînée par toutes ces filles et par toutes ces femmes.
Je vous le confirme absolument. En fait, vous avez dans votre écriture quelque chose de l'ordre de la douceur et de la plénitude. C'est pas du tout un catalogue. C'était pas le sens de ma question. Finalement, la question que j'avais envie de vous poser vient aussi de votre travail en général, de votre capacité à enquêter. Là, on a presque la sensation, d'une certaine façon, que tout ce qui vous a nourri pendant toutes ces années se raconte presque tout seul, avec un point important qui serait celui de l'écoute. Au fond, on a l'impression que vos personnages, vous les avez entendus, même ce bébé, en travaillant sur tous vos écrits précédents. C'est ça qui s'est passé? Au fond, c'est comme ça que vous travaillez?
Alors, c'est vrai que dans mes essais, je déploie une méthodologie qui consiste d'une part à écrire en première personne, c'est-à-dire que je dis « je » dans mes essais, mais au-delà même de cette première personne, je livre des récits autobiographiques de mes propres expériences vécues corporelles. Et ces récits viennent se mêler à d'autres récits que je recueille en rencontrant des femmes à qui je demande de me parler. Par exemple, j'ai écrit un livre sur les seins des femmes. Et bien, j'ai rencontré une quarantaine de filles et de femmes qui m'ont raconté leur vie au prisme de leurs seins. Donc, je suis en effet nourrie par toutes ces voix qui avec lesquelles je travaille pour mes essais. Et c'est à peu près certain que ces voix ont résonné dans ma tête et qu'elles ont nourri aussi les voix des 12 filles et femmes dont je parle dans Pleine et Douce. Et en effet, il y a quelque chose de l'écoute et au-delà de l'écoute, même du dialogue. C'est-à-dire que c'était un... S'il y a pour moi une façon... Je parlais tout à l'heure de l'émancipation d'Ève, de cette nouvelle génération de filles. Ce qui va la faire se déployer, s'épanouir, je crois... C'est le dialogue renoué entre les femmes, entre les sœurs, puisqu'il y a un trio de sœurs. Il y a Stéphanie, la maman d'Ève, qui a deux sœurs et qui sont toutes les trois, en quelque sorte, qui se sont liguées d'une certaine façon pour tenir à distance la grand-mère toxique. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la sororité à un niveau horizontal, mais il y a aussi quelque chose du dialogue entre les générations. Parce que je trouve, alors d'abord de mon expérience du champ féministe, je trouve que c'est important que les féministes de toute génération puissent se parler, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, c'est aussi le dialogue entre les femmes, puisque ce qui me paraît important, c'est de dire la possibilité de la transmission des mères vers les filles, de quelque chose qui a à voir avec une expérience vécue du corps libre et du corps joyeux.
Alors, cette transmission, on la voit bien, on la ressent, et elle est, alors là, pour le coup, elle est vraiment chorale. Et cette histoire de sororité, vous en parlez de plusieurs façons, hein, parce que vous présentez aussi des personnages qui ressentent une forme de sororité avec une famille recomposée au sens des gens avec qui on partage, et pas forcément un lien du sang. Et alors du coup, je suis surprise que vous ayez réagi au mot sacré par rapport à ce que vous venez de me dire, parce que finalement, alors j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi ce mot est un problème, parce que finalement, on le voit bien dans tous ces liens que vous tissez, on a l'impression au contraire que vous redonnez une place assez sacrée à ce lien qui est assez doux de finalement des femmes avec elles-mêmes, on pense à De Beauvoir même à ce moment-là, que vous auriez presque apaisé.
Alors peut-être que je réagis comme ça sur cet adjectif parce que c'est un peu une déformation professionnelle. Hein. Je suis philosophe politique notamment. J'ai beaucoup travaillé la question des relations entre le politique et le religieux. Et pour moi, cet adjectif sacré, il renvoie très précisément à la rencontre en un lieu ou dans une personne ou dans un objet de l'au-delà et de l'ici-bas. Disons que c'est un adjectif que je place à sa place, disons, j'allais dire, étymologique, vraiment assez haut. C'est-à-dire que ça renvoie un ordre d'existence qui est pas du tout présent dans mon livre. Alors on peut en faire un usage plus commun, mais une fois encore ça ne me va pas. Enfin, en tout cas, je sais pas, c'est un mot qui résonne pas pour moi relativement à ce que j'essaye de déployer dans le livre. En revanche, effectivement, cette idée que les liens entre les femmes sont des liens importants, cette idée que nous avions perdu et que nous sommes en train de redécouvrir par exemple, un savoir sur notre propre corps, et que cette redécouverte, elle se pratique de façon collective, c'est-à-dire dans la mise en partage de récits de vie, par exemple, dans la mise en partage aussi d'expériences vécues et de savoirs propres. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la société occidentale contemporaine, qui a à voir, en effet, avec la redécouverte par les femmes de la richesse et de la beauté, des liens entre elles, et surtout de la transmission de leurs expériences vécues et de leurs savoirs.
Est-ce que c'est une nouvelle façon d'appréhender le corps? Finalement, il y a un passage très intéressant. On voit bien, en fait, cet écho qu'il y a entre les personnages plus âgés, les plus jeunes, donc cette façon de dire, les jeunes aujourd'hui réinventent une forme de féminisme. En réalité, on le voit bien, elles réinventent pas, elles réinventent plutôt la façon de le dire. Et vous, alors, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui de cette nouvelle façon de dire? Et est-ce que le corps a une place différente aujourd'hui dans cette nouvelle façon de dire?
Alors, il y a un personnage dans le livre qui incarne un petit peu cette thématique que vous évoquez, qui est celui de Colette, qui est la sœur de Nicole, donc Nicole, la grand-mère aigrie. Colette, c'est sa sœur, donc elle a plus de 75 ans, elle aussi, mais elle est tout à fait différente, puisqu'elle, elle a vécu la deuxième vague féministe des années 70, elle a été militante, elle s'est impliquée, et puis elle vieillit tranquillement dans une petite communauté de femmes au fin fond du Berry, où elles vivent dans une sorte d'autarcie et de bienveillance sororale. Et puis, dans cette petite communauté, elle reçoivent des jeunes féministes d'aujourd'hui.
Et elle est ravie,
exaltée du point de vue de Colette.
Oui. Elle est ravie, pardon.
Alors, elle est tout à fait. Elle le dit, elle n'imaginait pas vivre deux fois dans son existence une telle intensité féministe. Et puis elle a aussi un petit regard un peu amusé sur ces jeunes femmes qui s'imaginent avoir découvert, par exemple, le clitoris, comme si c'était la première génération de féministes à s'être penchée sur le sujet du plaisir féminin, ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr. Et puis elle s'amuse aussi de les voir venir. Voilà, il y a un petit groupe de jeunes femmes qui veulent célébrer leurs règles. Et elle dit d'elle, bon, ben, qu'elles viennent donc lever leur cup menstruel à la pleine lune. Et puis moi, je leur raconterai quel soulagement et quelle libération ce fut de ne plus avoir de règles. Et ce personnage, il incarne pour moi à la fois la distance entre les générations féministes, mais aussi la possibilité du dialogue dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, le point commun entre ces deux générations, c'est le corps des femmes. Parce que bien évidemment, c'est le nœud problématique du féminisme depuis toujours. C'est-à-dire que si on définit le système patriarcal comme un système qui s'enracine dans l'enfermement des femmes et dans l'assignation des femmes à leurs fonctions sexuelles et maternelles, on comprend que tout le projet du féminisme, c'est de faire en sorte que les femmes ne soient plus que des corps, et qu'elles soient des corps sujets, non plus des corps objets. Et ça, c'est vraiment le fil rouge de toutes les luttes féministes depuis à peu près leur origine. Donc il y a une forme de continuité évidente entre les générations de féministes, et ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup amusée à rendre palpable dans ce chapitre où Colette prend la parole.
C'est un passage effectivement assez réjouissant. Mais qu'est-ce que ça a de nouveau, entre guillemets, vraiment, pour vous aujourd'hui, dans cette revendication du corps, puisque vous faites des descriptions en présentant ces jeunes féministes comme des personnages qui utilisent finalement des méthodes plus ludiques que ce n'était le cas peut-être dans les années 70 que vous racontez, en fait, les clips, non?
Il y avait une très belle exposition à Paris qui vient de se terminer, qui s'appelait Parisienne citoyenne, qui retraçait l'histoire des mobilisations de femmes à Paris depuis la Révolution française jusque dans les années jusqu'à 2000. Et on pouvait y voir la belle créativité, inventivité et tout l'humour de toutes ces femmes. Donc il n'y a pas franchement de révolution. Alors la grande différence, c'est l'outil. Ce sont les réseaux sociaux, notamment, qui démultiplient et qui donnent... Voilà, mais par exemple, je pense au cercle de conscientisation des années 70, où les femmes se réunissaient en non-mixité pour échanger leurs expériences vécues, d'expériences plutôt douloureuses. Eh bien, on retrouve cette même logique de mise en commun, circulaire, sur les fils Insta, où des féministes, des jeunes féministes, décident de consacrer tout leur travail à une thématique corporelle très très précise et même parfois très 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 focalisée. Voilà, un fil Insta sur la question des vergetures, un autre sur la question de l'allaitement, un troisième sur la question de la sexualité, etc. Et là, les femmes et les filles viennent mettre en commun les récits pour produire à la fois une prise de conscience et puis aussi une mobilisation politique. Donc voilà, je ne repérerai pas de différence du point de vue de la méthode. S'il y a peut-être quelque chose en plus, c'est pas que c'est différent, mais ça, qui vient s'ajouter, c'est que c'est toujours le corps des femmes qui est au centre, mais c'est vraiment le corps intime. C'est-à-dire que les thématiques qui sont explorées aujourd'hui par les féministes vont jusqu'au plus intime de la vie des femmes, leurs organes génitaux, j'en ai parlé, mais voilà, leur plaisir sexuel, mais aussi des tas de sujets qui ont trait à la maternité. Il y a toutes ces mobilisations autour des fausses couches, du postpartum, et ça, c'est sans doute des sujets qui sont assez inédits.
Est-ce qu'il y a aussi le fait d'avoir un rapport différent à l'autre, d'une certaine façon, puisque votre livre démarre quand même par ce personnage du bébé qui va vivre avec sa maman tout seul?
Oui, c'est un livre qui dit aussi non seulement la possibilité, mais aussi la beauté des familles choisies. C'est-à-dire que Stéphanie, elle a décidé d'avoir un enfant seul parce qu'elle a décidé depuis longtemps de vivre seule, c'est-à-dire de ne pas s'astreindre à vivre en couple. Elle est hétérosexuelle, mais il se trouve qu'elle est chef. Voilà, elle travaille dans un restaurant et elle tient à sa liberté. Elle s'est toujours projetée dans l'existence sur ce mode-là d'une existence autonome et voilà. Alors, elle n'est pas célibataire, elle a des histoires d'amour, mais donc elle vit seule et donc elle a décidé d'avoir son bébé toute seule. Elle est allée, alors, parce qu'au moment où j'ai commencé le livre, il n'était pas encore possible pour les femmes seules et les couples de lesbiennes de recourir à la procréation médicalement assistée. Donc Stéphanie est partie à Barcelone, comme bien des Françaises, pour faire cet enfant né du désir et de la technique. Et puis elle a décidé, à la naissance d'Ève, de lui choisir un père. Et donc c'est Greg, ce père intime, qu'elle souhaite présenter à toute sa famille lors de cette fête qui s'organise tout au long du livre. Et ça, c'est quelque chose que je voulais donner à voir, parce que d'abord, ça existe. Des familles choisies, il y en a de plus en plus. Des familles queer, il y en a de plus en plus. Et puis, c'est quelque chose qui dit aussi que finalement, ce qui a si longtemps constitué le socle quasi inébranlable du système patriarcal, à savoir cette famille hétéro-patriarcale hors de laquelle rien n'était possible, et hors de laquelle toute femme qui dérogeait à la norme était stigmatisée et mise au banc, eh bien, désormais, c'est important de repérer que finalement, tous les choix de conjugalité, tous les choix de maternité, de parentalité, tous les choix de sexualité, bien évidemment, tous les choix d'identité de genre sont désormais possibles. Alors, une fois encore, c'est évidemment seules les femmes occidentales qui ont cette chance inouïe de pouvoir éprouver toutes ces libertés. Mais c'est quelque chose que j'avais aussi envie de donner à voir.
Ces femmes, donc on l'a dit tout à l'heure, on les entend et puis elles parlent aussi à l'intérieur. Enfin, on entend leur voix intérieure. Pardon. En entendant leur voix intérieure, est-ce que vous évoquez aussi le fait que finalement, de ce que les femmes ne disent pas ouvertement, elles s'entendent, c'est-à-dire qu'elles savent la part des endroits où elles font semblant, elles répondent de façon commune. Et est-ce que dans votre livre, on assiste petit à petit justement à ce que ces voix intérieures deviennent des voix tout court, c'est-à-dire des façons libres de dire qui nous sommes?
Le choix que j'ai fait de les faire parler à la première personne, et effectivement dans une forme de monologue intérieur, c'est quelque chose qui me permet d'aller assez loin dans ce que les femmes pensent au plus intime d'elles-mêmes, des différentes dimensions de leur existence. Je prends l'exemple de Lucie, qui est une des sœurs de Stéphanie, qui est une trentenaire, qui est avocate, qui vit avec un homme assez, disons, nonchalant dans l'existence, et puis qui a décidé de vivre une histoire passionnelle avec un de ses collègues, avec lequel elle a échangé pendant très longtemps de façon purement virtuelle, et avec lequel elle a noué une relation sexuelle et peut-être un peu amoureuse, mais purement virtuelle, jusqu'au jour où, et c'est ce jour-là qu'elle raconte dans le livre, elle va enfin le rencontrer physiquement et pouvoir vivre pleinement cette passion sexuelle qu'elle a vécue jusque-là à distance. Et dans la rencontre de ces corps, rien ne se passe comme attendu, et finalement, ce qu'elle ressent, c'est juste une immense déception, et surtout, ce qu'elle ressent, c'est un désir qui en fait n'est pas là, ou n'est plus là. Et ça, ça fait partie des choses que les femmes peuvent vivre, c'est-à-dire être dans une attente, une envie très forte, un projet très très intense de vivre quelque chose de l'ordre de la passion sexuelle, et puis finalement pour des raisons parfois qui tiennent à pas grand-chose, eh bien, elles n'ont plus envie. Mais ça, c'est quelque chose qui ne s'entend pas si on ne prête pas l'oreille, si on ne tend pas l'oreille pour écouter ce que les femmes racontent de leur vie intime, parce que c'est quand même pas une chose très très facile de dire voilà, cet homme, je l'ai désiré follement. Et puis le jour où nous étions ensemble, bien tout ça a disparu. Et finalement, je ne voulais plus. Et néanmoins, j'ai dû performer en quelque sorte ce simulacre de relations sexuelles, comme parfois bien des femmes. Enfin, je le dis parce que j'ai reçu quelques retours de lecture dans ce sens de femmes qui disaient ah, c'est quelque chose finalement dont on parle peu, mais qui puisse y avoir à un moment donné, y compris dans une relation tout à fait consentie, un moment où le corps, le désir ne réagit pas comme on aurait imaginé, et que quelque chose se dit tout simplement de la liberté qui est celle d'une femme de choisir un moment ou de ressentir qu'elle ne désire plus. Alors, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais ce que je voulais dire par là, c'est que la voix intérieure, elle permet de mettre au jour des petites choses subtiles et très intimes, mais qui font le quotidien de la vie des femmes. Et puis, quand on les met toutes ensemble, ces voix intérieures, effectivement, elles prennent une autre dimension, enfin, en tout cas, j'espère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de chant, c'est-à-dire que chaque voix est très très singulière. D'ailleurs, j'ai travaillé d'un point de vue littéraire chacun des chapitres pour trouver et donner à chacune d'entre elles une petite singularité stylistique, etc. Mais ce qu'elles produisent ensemble, comme dans une chorale, d'ailleurs, c'est un même chant. C'est-à-dire, on n'entend plus les dissonances ou les différences entre les voix singulières. Ce qu'on entend, c'est un même chant, et surtout, ce qu'on entend, c'est un même refrain, c'est-à-dire ce refrain de cette aspiration à la libération.
Mais ça rejoint vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous disiez non, il n'y a pas vraiment de nouveau féminisme, peut-être, il y a les réseaux sociaux, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quand même une autre éducation, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, une autre pédagogie peut-être, du langage du corps des femmes dans ce principe de liberté, qui n'est plus seulement sur le principe de la vitrine. Il y a un passage sur les seins, par exemple, dont vous dites que les seins ne sont pas seulement des objets exposés, certes, mais qui est vraiment dans ce ressenti. Finalement, une forme de réflexion conjointe des femmes sur une exigence féministe qui partirait du ressenti et non plus simplement de la posture sociale.
Oui, qui partirait de l'expérience vécue, mais une fois encore, c'était la volonté des féministes dans les années 70 déjà. Notamment, je pense au grand projet Our Bodies, Ourselves, Notre corps, nous-mêmes, qui est un livre qui a été écrit suite à une immense tournée aux États-Unis où se sont organisés des centaines de cercles de femmes qui ont produit du savoir et qui ont donné lieu à ce livre qui est devenu une bible du féminisme de la deuxième vague, qui a été réédité maintes fois et tout à fait récemment une nouvelle fois en français sous le titre donc Notre corps, nous-mêmes. Il y a quelque chose de... En fait, je veux dire, c'est intrinsèquement féministe, ce principe qui est de dire ce que les femmes éprouvent est politique. C'est non seulement le privé est politique, mais l'intime est politique. Parce que la domination masculine, elle s'est d'abord exercée, et ce depuis à peu près toujours, dans ce lieu de l'intime, qui est notamment le lieu de la vie sexuelle. C'est vraiment l'endroit, j'allais dire, emblématique, finalement, de la domination masculine. Donc, en effet, donner de la valeur aux ressentis, aux expériences vécues dans la vie intime des femmes, c'est rendre visible, c'est publiciser, et c'est donc aussi politiser tous ces sujets pour que les femmes se réapproprient toutes ces dimensions corporelles dont elles ont été dépossédées et qu'elles puissent les éprouver donc enfin pleinement et surtout enfin librement.
Oui, tout à fait. Alors, il y a autre chose qui est de l'ordre de la transmission, vous le disiez tout à l'heure, et donc sur lequel on pense aussi à une forme de pédagogie, d'enseignement et de transmission à la fois. C'est ce personnage du bébé qui démarre votre livre avec ce titre « Pleine et douce » et donc on en a presque la matière quand on lit en fait ces pages. Et en même temps, cette grand-mère à l'autre extrême comme une chaîne qui serait un peu le contraire, qui serait creuse et rêche, on pourrait dire. Enfin, je tire le trait, pardonnez-moi, c'est pas tout à fait l'idée, mais enfin, vous voyez. Et donc, enfin, vous posez cette question, me semble-t-il aussi, de savoir dans quelle mesure l'éducation transforme une femme au point de l'assécher. Il y a un autre passage dans votre livre qui est très fort, qui est celui donc de Colette, qui s'interroge aussi sur le manque, les femmes qui vieillissent et qui un jour se réveillent et ne sont plus qu'un souvenir d'elles-mêmes.
Oui, c'est intéressant et assez joli, oui, d'essayer de trouver les adjectifs, disons, les antonymes de planer douce. Oui, moi, je dirais sèche et éparpillée, quelque chose comme ça. Et Nicole, elle est en effet sèche et éparpillée. Et c'est en effet aussi une petite ligne de force du livre qui est de travailler ce rapport des femmes à leur propre vieillissement. Alors, pour Nicole, c'est très douloureux. Elle a été une belle femme. Et puis, elle est désormais donc une vieille femme. Et elle n'éprouve que de l'aigreur vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire vis-à-vis de ce corps qui n'est plus celui de sa splendeur passée. Elle n'éprouve que de l'aigreur pour ses trois filles qui, elles, sont encore épargnées par les ravages du temps. Hein, je parle avec ces mots. Elle est un peu pathétique et en même temps, elle incarne pour moi toutes ces femmes qui n'ont pas pu faire autrement que de jouer le jeu du patriarcat. C'est-à-dire que c'est une femme qui a dû accepter la rivalité entre femmes, qui s'est coulée dans le moule de ces injonctions esthétiques qui pèsent sur les femmes et qui les obligent à être toujours et à paraître toujours plus jeunes, plus fraîches, plus minces, etc. Elle est en quelque sorte une sorte d'emblème des ravages du patriarcat sur les femmes qui les réduisent à n'être plus que des corps et donc à se désoler quand, au soir de leur existence, eh bien, ces corps les abandonnent un peu, les lâchent un peu. Et sa sœur, c'est tout l'inverse. Elle est grosse parce qu'elle aime manger, qu'elle aime cuisiner et elle l'assume complètement et elle aime poser ses grosses fesses sur le banc de pierre de devant sa maison. Elle a une vie sexuelle alors solitaire, elle se caresse souvent à l'heure de la sieste et dans le passage, le jour où elle parle dans le livre, elle n'a pas le temps de le faire parce qu'elle a un projet, elle doit fabriquer des dragées artisanales pour la fête de sa petite nièce. Donc elle a un rapport au corps vieillissant tout à fait qui est celui dont j'aimerais que toutes les femmes puissent d'une certaine façon y accéder, c'est-à-dire accepter son corps tel qu'il est, y compris avec ce que le temps a fait sur ce corps, l'accepter et puis continuer d'en jouir en mangeant parce qu'on aime manger, en se donnant du plaisir, en partageant aussi des moments d'amitié sensuelle avec ses proches, etc. Donc c'est un peu... Je dois vous dire qu'en le disant, là, je m'aperçois que j'ai donné ces deux facettes du même problème, si je puis dire, ou de la même thématique corporelle. Je ne l'ai pas du tout construit comme ça, de façon aussi binaire et presque un petit peu simpliste. Mais bon, je me dis que finalement, c'est aussi une des surprises du livre que de me montrer parfois. Parce que par exemple, Colette, c'est un personnage qui est arrivé très tardivement. C'est un des tout derniers que j'ai imaginé. Et il est arrivé un peu par surprise et je suis en train de comprendre là en vous parlant que peut-être je l'ai fait naître parce que voilà, il fallait que ça se soit présent, il fallait que le vieillissement ne soit pas uniquement incarné par Nicole qui est dans l'amertume d'une part, puis par son autre fille Laurence qui est quinquagénaire, qui vit se tournant la ménopause, qui a été quittée par son mari pour une plus jeune, pour une plus féconde, et qui est dans une forme, elle est dans la colère, et là il y a quelque chose aussi de, enfin ça peut être positif la colère, mais bon voilà, il y a un mixte chez elle de colère positive et négative. Et donc Colette, elle vient dire, ben voilà, il y a une autre possibilité, on peut éprouver en toute plénitude et en toute joie ce moment de la fin de vie des femmes.
Et cette question-là, elle m'a fait penser à un livre de Jonathan Coe qui s'appelle Billy Wilder et moi, dans lequel il fait dire à Billy Wilder que c'est plus difficile pour une femme de vieillir parce que la société lui renvoie d'abord son image avant toute chose. Et c'est une vraie question. Est-ce que vous pensez, au fond, que ça, c'est un apprentissage que les femmes sont en train de faire parce que, sur le papier, c'est plus difficile pour les femmes de vieillir parce qu'on ne leur a pas appris à vieillir ?
Alors, c'est peu de le dire que c'est plus difficile pour les femmes de vivre, en effet. C'est-à-dire que il y a vraiment, c'est une des injustices qui, pour moi, est une des plus dramatiques et des plus importantes aujourd'hui à tenter de résorber. C'est-à-dire que tout dans la vie des hommes et des femmes s'oppose pour ce qui concerne le vieillissement. C'est-à-dire que les mêmes signes physiques du vieillissement sont qualifiés positivement pour un homme au grisonnant, voire aux cheveux blancs, et une femme qui généralement elle se teigne les cheveux justement pour pas donner à voir leurs cheveux blancs. D'un côté, ça inspire, voilà, c'est l'expérience, la confiance, la solidité. De l'autre, c'est le laisser aller, la mollesse, et une forme de de renoncement, idem pour les rides, idem pour l'embonpoint, voilà. Enfin, je veux dire, un homme qui vieillit est valorisé socialement, une femme qui vieillit, elle est discréditée, pour pas disqualifiée, voire exclue. Alors, je force un peu le trait, mais c'est ainsi que les choses se passent, parce que de façon immémoriale, dès lors que les femmes passent le cap soi-disant fatal de la cinquantaine, qui est aussi celui de la ménopause, c'est comme si elles devenaient invisibles aux yeux du monde. Alors, c'est pas seulement invisible aux yeux des hommes, mais c'est simplement plus, j'allais dire, c'est bien plus grave que cela. C'est je reviens à cette question que je trouve importante de du plaisir et de la sexualité des femmes vieilles. Ce qu'on dénie aux femmes de 50, 60, 70 ans, c'est qu'elles sont des sujets de désir, c'est qu'elles restent des sujets de désir. C'est pas tellement qu'elles sont plus désirables, mais c'est qu'on leur refuse même qu'elles puissent s'éprouver elles-mêmes comme des sujets de désir. Et Colette, pour moi, elle vient dire, bah si, voilà, je suis désirante et c'est important de tenir et de maintenir cette condition de sujet de désir. Et c'est effectivement, ça fait partie des combats qui sont aujourd'hui très importants et très beaux aussi.
Comment s'est passée l'écriture dans ce triangle que vous avez travaillé en même temps ces dernières années sur les seins, sur le corps à soi? Il y a un écho quand même dans votre livre, qui est celui-ci, particulièrement avec vos dernières écritures, et notamment sur le plaisir. Comment s'est passée l'articulation?
Il y a quelque chose à un moment donné dans mon écriture habituelle, hein, qui est l'écriture d'essai, qui est venu, comment dire, il y avait comme une forme d'appel ou de, presque une exigence qui s'est imposée, où j'ai eu envie, mais vraiment très envie, de m'exprimer dans un autre registre. Et quand j'imaginais, au moment où j'élaborais le projet de Un corps à soi, qui est un ouvrage, donc mon dernier essai, qui est un ouvrage dans lequel je déroule le fil de la vie des femmes, du bébé-fille jusqu'au grand âge, où je m'arrête à tous ces moments où j'appelle ça des nœuds phénoménologiques, tous ces moments où des bouleversements corporels produisent chez elles à la fois un ébranlement intime, mais aussi un changement dans les représentations sociales, mais aussi donc des attentes en termes de droits politiques, et notamment de liberté et d'égalité. Donc c'est tous ces moments, alors ça peut être des grands tournants comme la puberté ou la ménopause, ou des choses plus quotidiennes comme le rapport à l'alimentation ou à sa propre apparence. Et bien quand j'ai élaboré le projet de cet essai, j'ai tout de suite eu envie d'écrire dans un registre fictionnel, et je m'étais dit que je pourrais ouvrir ces chapitres avec des petits textes fictionnels qui porteraient des prénoms de filles et de femmes. Et puis finalement, j'ai dissocié ces deux registres et j'ai ouvert un espace purement romanesque à ces personnages féminins que j'avais envie de faire exister. En revanche, je n'ai pas réussi à écrire dans les deux registres simultanément. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire le roman, et puis quand le projet d'essai s'est concrétisé et que je me suis mise à l'écriture de l'essai, en fait, alors même que je m'étais imaginée et je trouvais ça tellement joli que j'allais pouvoir écrire de façon parallèle le roman et l'essai, donc j'en ai été incapable. Peut-être que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont mobilisées. En tout cas, j'ai laissé de côté le roman, j'ai fini l'essai et puis j'ai repris le roman une fois que l'essai est paru. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai éprouvé cette forme de jubilation et de libération dont je parlais tout à l'heure, où tout d'un coup, je crois que j'étais enfin dans l'écriture littéraire pleinement. Et voilà. Et puis comme par ailleurs, il se trouve que je suis enseignante-chercheure et que j'ai aussi des cours à préparer, donc je m'étais ménagé des petits moments, pas très longs, mais qui étaient très précieux. Le matin, très tôt, j'écrivais une heure ou deux le roman avant de me mettre au reste, c'est-à-dire après la préparation de mes cours ou la rédaction de mes autres textes. Et c'est pour ça que c'est un livre que je porte depuis longtemps, hein, depuis plus de 5 ans. Mais qui m'a accompagnée et d'ailleurs c'est un rythme lent mais qui m'allait très bien. Enfin, j'ai jamais ressenti une forme d'urgence et d'ailleurs j'ai jamais imaginé même que je pourrais être publiée. Enfin, c'était une surprise inouïe et une grande joie, mais c'est quelque chose que je faisais parce que j'avais vraiment très envie de le faire, tellement envie que c'était peut-être un besoin, je ne sais pas, mais je suis D'autant plus heureuse d'avoir l'occasion de le donner à lire, parce que ce n'était pas du tout une évidence pour moi.
Oui, on est très contents d'avoir à le lire. Alors, il y a une autre question qui est troublante quand même dans ces 12 personnages dont vous parlez et de la façon dont vous l'avez écrit. C'est qu'on a presque l'impression que c'est un seul et même personnage et qu'il écrit à des moments différents de sa vie, mais des jours différents. Enfin, ça pourrait être des pensées différentes, mais ça pourrait être simplement... un feuilleton de l'ordre de l'intime, du soi-même. Mais il y a quelque chose de troublant, ces personnages. Vous auriez pu continuer à en faire encore beaucoup d'autres, parce qu'on a l'impression aussi que ce sont des moments.
Peut-être. Alors, je crois pas qu'elle puisse être le même personnage, parce qu'il y a une dimension générationnelle qui fait qu'il y a des choses qui les séparent. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles disent tout ensemble quelque chose... du personnage unique qui est celui de... Alors, j'aime pas dire la femme au singulier, mais disons, elles disent quelque chose de la condition féminine contemporaine et quelque chose qui résonne. Et effectivement, en fonction de l'âge qu'on a au moment où on lit le livre, j'ai pu observer des retours de lectrices et de lecteurs, parce que s'il y a bien une chose qui m'a ravie et que je ne connaissais pas jusqu'à présent, parce que mes essais de pensée féministe sont très peu lus par des hommes... C'est comme ça pour la plupart des ouvrages féministes d'ailleurs. Mais et là, je vois que j'ai alors, je sais pas si j'ai autant de lecteurs que de lectrices, mais en tout cas, j'ai des lecteurs enfin. Et que ce soit les lecteurs ou les lectrices, ce que j'observe, c'est que on peut se reconnaître soi, mais on reconnaît surtout des personnes autour de soi, parce que on a toutes près de soi une amie. Je pense à Corinne, qui est une des amies. Il y a deux bonnes amies de Stéphanie, dont Corinne, qui n'a pas eu d'enfant, qui vit seule et qui vit la maternité de son amie avec un petit peu de tristesse, qui est assez ébranlée d'un point de vue existentiel par ce qui arrive à son amie. Ce personnage-là, des femmes qui ont fait un beau parcours professionnel, par exemple, mais qui se retrouvent à un moment de leur vie un peu seules et un peu tristes, parfois, on en connaît. On connaît toutes aussi des toutes jeunes filles, hein, parce qu'on a des toutes jeunes. Il y a une petite fille de 10 ans, Lola, et puis une ado de 13, et puis une jeune femme d'une vingtaine d'années. Ces filles-là, on les connaît aussi autour de nous, et c'est des filles en lesquelles on place d'ailleurs tous nos espoirs.
Est-ce qu'elles continuent de vous parler, ces femmes? Est-ce que finalement, vous avez engagé une propre conversation sur le quotidien?
Écoutez, pour être honnête... Non, elle ne m'accompagne plus. C'est-à-dire que elles m'ont tellement accompagnée. Hein, je vous disais que ça fait plus de 5 ans. Elles continuent leur vie dans le livre. Et ce, d'autant plus que, pour rien vous cacher, j'ai commencé de réfléchir et de travailler au suivant, et que donc il y a de nouveaux personnages féminins, parce qu'il s'agira encore de femmes qui m'accompagnent désormais au quotidien. Mais ce ne sont plus celles-ci.
Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'entendons pas, qui est entre les lignes dans ce livre? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous? Puisque je le disais tout à l'heure, le silence a une part importante. Hein. Il y a des phrases dans lesquelles vous dites, par exemple, c'est au sujet de Kenza, qui dit « Des larmes coulaient de mes yeux. Je ne le savais pas, elles coulaient en silence, mais c'était comme un cri. » Alors j'ai noté celle-ci, mais il y en a beaucoup d'autres, des phrases où le silence a une portée importante dans votre livre. Est-ce qu'il y a quelque chose en silence dans votre livre que vous ne dites pas tout à fait, qui peut être une chose ou plusieurs choses laissées au lecteur, mais qui représente quelque chose pour vous?
Oui, c'est ce que dit Charline. Alors, il y a cette phrase de Kenza. Alors, Kenza, elle souffre d'un cancer du sein, mais comme elle est par ailleurs une femme intense, une guerrière, hein. elle est lesbienne, elle a fait des choix de vie qui n'étaient pas simples, mais qu'elle a assumé, et puis elle a ce rapport au monde qui est sur le mode du combat. Elle est aussi assez militante, etc. Mais là, la maladie vient évidemment l'ébranler. Elle choisit de l'affronter en guerrière, et puis il y a des moments comme ce petit passage que vous venez de citer où tout d'un coup, quelque chose en elle se manifeste qu'elle ne comprend pas même elle-même. C'est-à-dire qu'à ce moment où elle pleure, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était en train de pleurer. Et puis, il y a Charline, c'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui a subi une agression que je décris dans le livre, et puis qui a souffert et qui souffre encore d'anorexie. Et elle dit, en parlant de son agression, elle dit, ce que j'ai vécu, je n'ai jamais pu le dire, je n'ai jamais pu le raconter. Ce que j'ai vécu, seul mon corps l'a dit. Et elle pense évidemment à l'anorexie. Et donc peut-être ce qu'il y a dans les silences, c'est cette évidence pour toutes les femmes que nos corps disent souvent beaucoup de choses, disent souvent bien plus peut-être même que ce qu'on aimerait vraiment dire, ou nous permettent aussi de dire des choses qu'on n'arrive pas à dire.
Il y a une limite, hein, dans votre livre, on le voit bien, sur des sentiments qui sont de l'ordre de la tendresse, des émotions douces et pleines, pour reprendre le titre de votre livre. Il y a une limite à la violence. Il y a des passages, en fait, où on le voit bien, il y a presque une nervosité de cette tendresse, de cette façon de pouvoir s'aimer charnellement, qui peut basculer dans la violence. Il y a pour vous, justement, un curseur, une limite à trouver pour les femmes entre le plaisir, la douceur, le basculement vers une forme d'animalité dans laquelle la femme n'a plus de place, ou pas telle qu'elle le voudrait en tout cas.
Oui, parce que c'est quelque chose qu'elle subisse. Enfin, on ne décide pas de se trouver confronté à la violence. Mais on peut faire en sorte de se l'épargner le plus possible. D'abord en s'épargnant l'auto-violence, si je puis dire, parce que ça aussi, c'est un mécanisme patriarcal très efficace, c'est-à-dire que tout est fait dans le système patriarcal pour que les femmes soient dans une forme de rapport à elles-mêmes placée sous le signe de la honte et de l'insatisfaction. Et c'est quelque chose qui est inoculé aux filles dès la puberté, qui arrive avec les règles, qui sont comme le marqueur de l'infamie féminine, c'est-à-dire qui vont marquer en fait le corps et la vie des femmes de cette difficulté inouïe qui est d'être dans un rapport sain et serein vis-à-vis de soi. Or, les filles d'aujourd'hui, comme celles d'hier d'ailleurs, grandissent avec cette espèce d'obligation d'être toujours mieux que ce qu'elles ne sont. Et donc, dans cette course effrénée à une forme d'idéal féminin imposé de l'extérieur, elles sont les unes vis-à-vis des autres comme des rivales. Et elles sont surtout vis-à-vis d'elles-mêmes dans une forme d'insatisfaction qui devient de la détestation de soi, et c'est un véritable poison, et c'est quelque chose qui sert en fait, la reproduction aussi de la domination masculine, parce que pendant que les filles et les femmes sont occupées à essayer de paraître toujours mieux, et pendant qu'elles sont obsédées par la valeur qui leur serait socialement reconnue parce qu'elles souscriraient plus ou moins bien à un certain nombre de diktats, et bien pendant ce temps-là, les hommes peuvent continuer de faire tourner le monde, et pendant ce temps-là, les femmes ne peuvent pas, elles, l'investir, ce monde. Donc il y a quelque chose de décisif à récupérer, en quelque sorte. C'est-à-dire reprendre le contrôle de sa propre existence, retrouver les modalités d'une relation à soi placée sous le signe de la bienveillance, pour pouvoir ensuite, c'est là aussi où je disais tout à l'heure que l'intime est politique, et là c'est de façon évidente, c'est-à-dire que quand on est dans un rapport à soi bienveillant et doux, on peut déployer alors, disons, une forme de rapport au monde qui soit sans doute aussi bienveillant, mais qui soit aussi plus conquérant d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on se donne de la valeur à soi-même, eh bien, on peut exiger ensuite que cette valeur soit reconnue dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que les femmes sont en train de conquérir, je crois.
Oui. Et vous, dans votre vie de femme active, dans votre carrière, qu'est-ce qui vous aura aidé finalement le plus à pouvoir être vous-même, écrire ce que vous écrivez ?
Pendant très longtemps, seule la littérature. C'est-à-dire que pendant toutes les années de mon enfance, de mon adolescence et même de ma jeunesse, où j'étais dans des phases de ma vie qui étaient singulièrement, disons, marquées par toutes ces problématiques corporelles, par tout ce que je viens de décrire tout à fait à l'instant, je le dis de façon très, très ouverte dans un corps à soi. J'ai eu un rapport à mon propre corps placé vraiment sous ce signe-là de la détestation de soi. J'ai souffert de boulimie, j'ai été une jeune femme grosse et j'ai eu un parcours, une histoire avec mon propre corps, voilà, placé vraiment sous le signe de la souffrance, de l'insatisfaction, etc. Et puis la vie. Alors, d'abord, j'ai fait une rencontre amoureuse qui m'a sauvée d'une certaine façon, avec un homme qui est toujours dans ma vie, et ça, c'est une chance inouïe. Et puis, pendant toutes ces années-là aussi, je lisais de la littérature énormément, dès que j'ai su lire. Enfin, il ne se passe pas un jour sans que je lise des romans. Et, ça, et c'est quelque chose qui m'a accompagnée, parce que les livres sont, je crois, et ce n'est pas un hasard s'il y a tant de femmes qui lisent, des romans notamment, ce sont des espaces de liberté. Ce sont en fait, les livres ouvrent des lieux où les femmes sont libres, des lieux où elles peuvent faire ce qu'elles ne peuvent pas faire dans la société parce que ça leur est interdit ou ça leur est très difficile. Les livres sont le lieu même d'une liberté d'abord éprouvée sur le mode de imaginaire par la lecture, mais qu'on peut ensuite éventuellement tenter de vivre de façon plus concrète, plus effective. Donc les livres m'ont longtemps accompagnée, et puis plus récemment, enfin depuis que je suis entrée en féminisme, le fait de vivre ces combats de façon collective, le fait de discuter avec des amis féministes de toute génération d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Et je pense notamment à l'une d'entre elles qui est dans sa trentaine et qui m'a littéralement dessiller les yeux en me disant, pour toujours cette question du rapport à son propre corps, en me disant que si chaque femme avait vis-à-vis d'elle-même la même attention et la même bienveillance que nous avons vis-à-vis de nos très bonnes amies, qui, lorsque nous les voyons, suscitent en nous toujours de la joie et à qui on a envie de dire tout de suite qu'on les trouve en forme ou qu'on est heureuse de les voir ou qu'elles ont l'air heureuses, etc. Et bien, si on avait vis-à-vis de soi-même cette même a priori de bienveillance, eh bien on se ferait beaucoup de bien. Et donc, j'ai beaucoup appris au contact de féministes plus jeunes sur cette question-là de la façon dont on peut commencer d'abord par prendre soin de soi pour ensuite pouvoir, j'allais dire, mener le combat. Voilà.
Est-ce que l'accueil, ce sera ma dernière question, est-ce que l'accueil de ce livre du public correspond finalement au ton que vous y avez mis en l'écrivant ?
Pas tout à fait. Mais c'est pas grave. Je veux dire par là que ce qu'on me renvoie énormément, et vous l'avez fait encore aujourd'hui, et ça me comble tout à fait, hein, c'est d'une lecture qui procure, voilà, à l'instar du titre, quelque chose de l'ordre de la douceur, quelque chose de plein et de doux. Or, moi, dans l'écriture, j'ai mis tellement de choses qui sont aussi sur le versant plus rude, voire violent de la vie des femmes. Voilà, il y a la maladie, il y a l'agression, il y a la séparation, il y a la tristesse, il y a la dépression. Alors, c'est peut-être un peu... Mais quand j'écrivais, j'avais ça aussi en tête. Et même, voilà. Mais il se trouve que, parce que ces femmes sont venues à un moment donné dans l'écriture m'emmener avec elles, elles ont ouvert quelque chose d'autre. Que je découvre en fait dans les retours de lecture que l'on me fait et qui font ma joie et qui m'intriguent aussi un petit peu, mais voilà, ça fait partie de la vie d'un livre. C'est assez inédit pour moi, hein, parce que c'est aussi une expérience un peu différente, hein, de ce que je vis avec mes essais, mais c'est quelque chose de... Enfin voilà, j'aime beaucoup ça.
Alors ça tient, si je peux me permettre, de la façon dont vous le faites aussi, qui est une conversation que vous entamez avec le lecteur et qui fait qu'il y a toute cette violence et ces sujets profonds, mais qui sont abordés avec une forme de tranquillité. Vous nous transmettez une forme de tranquillité, non pas pour les vivre avec distance, mais pour les appréhender, pour être prêt à en discuter, pour être prêt à les entendre avec une forme de stabilité. Et pour cela, c'est à mon sens un grand livre. Et je vous remercie beaucoup pour cet échange, Camille Froide, vous mettrez. À bientôt, j'espère.
Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour ces mots que vous venez de dire.